Bonjour.
Du conflit Rhodésie-Zimbabwe à la guerre au Liban, en passant par l'Iran, l'Afghanistan, la frontière en Thaïlande et zones tenues par les Khmers, ou encore les massacres de Sabra et Shatila. Pendant plus de 10 ans, à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, vous avez travaillé en zone de guerre. Et ça, je crois que ce n'était pas forcément une vocation que vous aviez dès vos études de médecine. Il y a eu des rencontres qui vous ont amené sur ce terrain-là.
Oui, je suis parti en fait un jour en vacances en Rhodésie, Zimbabwe, ce qui s'appelle aujourd'hui Zimbabwe, pour voir mon meilleur ami. Et le jour de mon arrivée, un chirurgien m'a dit « Est-ce que ça te plairait de visiter l'hôpital, qui est un hôpital immense dans la capitale ?» Et c'est là où j'ai rencontré, pour la première fois de ma vie, en visitant cet hôpital, des enfants qui souffraient de marasme et de kwashiorkor, c'est-à-dire qui étaient en train de mourir de faim, et aussi des personnes, enfin notamment une jeune fille qui avait été torturée, et ça a décidé de tout un pan de ma vie finalement, parce que à la fin de cette visite, qui a été assez longue, puis ça a duré presque une journée, où on a opéré avec le chirurgien en question, eh bien, il m'a demandé, mais quand est-ce que tu reviens? Et je suis retourné quelques mois après, et c'est là où j'ai découvert la chirurgie de guerre et tout le reste.
Chirurgie et chirurgie de guerre, ce sont deux univers complètement différents?
Disons, il y a des règles excessivement précises dans la chirurgie de guerre, où malheureusement les blessures sont généralement excessivement importantes et sont différentes de celles que l'on rencontre dans un hôpital entre guillemets civil, et donc on est obligé en plus lorsqu'on a des installations un peu limitées comme il se trouve dans ces pays, on est obligé de faire ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire de choisir les personnes que l'on va pouvoir opérer. Et c'est pas un choix facile parce que souvent on va prendre des personnes que l'on peut sauver assez rapidement et peut-être laisser de côté les personnes qui sont trop gravement atteintes et qui nécessiteraient trop de temps ou trop d'énergie pour pouvoir les opérer. Donc c'est ce qu'on appelle le triage chirurgical qui se fait selon certaines règles où on doit aller très vite, où on doit aussi prendre des décisions qui sont parfois difficiles puisque on va laisser de côté certaines personnes qui vont décéder, bien entendu, après.
Alors, vous nous racontez votre quotidien, les difficultés, les conflits moraux également, parce que vous l'avez évoqué un petit peu, c'est parfois complexe, puis on doit aller très vite.
On doit aller très vite, et puis, évidemment, on est limité par le nombre d'équipes chirurgicales que l'on a à disposition, et aussi les moyens que l'on a à disposition, ce qui veut dire que, d'une part, on va devoir laisser mourir certaines personnes, ce qui n'est jamais facile quand on est médecin, bien entendu, ou chirurgien. Et deuxièmement, la chirurgie elle-même est beaucoup plus... il y a beaucoup d'amputations, il y a beaucoup de choses comme ça, qui ne sont pas faites simplement parce qu'on doit faire ceci à cause des lésions qu'il y a.
Il faut oublier son cœur dans ce genre de situation et puis n'écouter que sa raison, vraiment tout mettre sur son côté rationnel.
Bien entendu, quand on est dans l'urgence, on agit, on fait tout ce triage, etc. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce dont je me suis rendu compte finalement par la suite, parce que c'est seulement par la suite que j'ai commencé à souffrir de ce fameux trouble de stress post-traumatique, c'est que finalement on a des émotions pendant que l'on agit de cette façon, mais évidemment on les enterre en soi, et il est totalement exclu d'aller crier, pleurer ou quoi que ce soit, donc... Eh bien, on garde tout ça à l'intérieur et ça devient une bombe qui peut exploser par la suite.
Alors, c'est justement le sujet de votre livre, comment vous avez failli y laisser votre âme. Et puis, alors, il y a eu ces années de chirurgie de guerre et puis également de coordinateur médical pour le CICR avec des situations qui sont complètement folles où on est dans des camps de réfugiés, on est pris entre les conflits, il y a les balles qui fusent. Et puis, il faut envisager les situations dans leur globalité. Par exemple, vous écrivez cette histoire de l'eau qu'on donne à bouillir pour éviter les infections. Mais du coup, il faut du bois pour faire bouillir cette eau. Un bois qu'il faut aller chercher dans une forêt. Une forêt qui elle-même a été minée. Donc il faut vraiment avoir tous les aspects d'une situation en tête pour prendre les bonnes décisions.
Oui, et puis parfois, bah, évidemment, que c'est dans une histoire d'eau dont je parle, c'est vrai qu'il est tout à fait naturel de dire qu'il faut bouillir l'eau, de façon à ce que les enfants, les personnes ne puissent pas avoir d'infection par la suite due à une eau contaminée. Ceci étant dit, aller chercher du bois, ça voulait dire risquer d'exploser sur une mine ou bien d'avoir un bras arraché par une mine. Donc, les décisions qu'on prend parfois peuvent se retourner un peu contre nous. Et donc, il a fallu après corriger le tir et faire en sorte que du bois puisse être livré aux réfugiés qui avaient besoin notamment de faire bouillir cette eau.
Alors, au fil des années passées sur le front, à soigner en évitant les balles, en devant composer également avec les différentes parties des conflits, hein, il y a des aspects diplomatiques également, vous commencez à développer des symptômes. Il faudra du temps pour mettre un nom sur votre mal, le trouble de stress post-traumatique. On y revient dans un instant, après ces quelques notes de musique.